Il est 19h sur le 100.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. Dans quelques instants, on va parler de X, on va parler d'hommes, de femmes qui aiment les femmes, on va parler de musique surtout et puis d'autres choses. Mais d'abord, générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Kaizoku-oni. Ore wa naru.
Batman. Oh, d'un petit ch'tou.
Sauvez vite. Il est parti de moi ici.
Justement, les touristes de bord.
Modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images de la BD franco-belge, du manga et du comics. C'est beau micro, on va être ensemble pendant une heure. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le chat de Radio G, le site de Radio G et onglet chat. Je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Fabien. Ça va Fabien ?
Ça va bien et toi ?
Je suis en train de mourir sur ma chaise, il doit faire 40 degrés dans le studio.
Il fait un petit peu chaud dans le studio.
Bon, c'est parce qu'on vous aime qu'on fait de la radio, hein, parce que clairement là... Dans le jacuzzi avec des glaçons, ça aurait été pas mal.
Ouais, c'est une bonne idée. On va se le mettre dans la tête, ça va nous faire du bien.
Ah ouais.
Psychologiquement.
Ouais, psychologiquement. je tiens à rassurer ceux qui nous écoutent depuis la pré-intro. J'ai des petites blagues, hein, gardez les enfants, bien entendu, il n'y aura rien en dessous de la ceinture sur cette émission. Ça va bien se passer. Il n'y a pas de sujet. Plus de 18. Je vais commencer, si tu le permets, Fabien, avec des suites. Mais d'abord, le jingle ensuite.
Oh, mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Ensuite ?
A few moments later.
Voilà, voilà. Il bougera peut-être ce générique, je suis pas complètement satisfait, mais bon. Deux sorties, deux suites de séries aux éditions Nobby Nobby. La première, c'est Imago, les bracelets d'Isbanir de Galang Tirtakuzuma et Mariam Hashmi sur une série de Sylvain Dos Santos. C'est la version manga papier d'une série animée et c'est une histoire qui n'est pas dans la série animée. Je sais pas si tu connaissais Imago.
Non, je ne connaissais pas. Même la version animée, j'ai pas entendu parler. Mais après, je suis pas forcément tout ce qui se passe en animé.
Ouais, alors c'est plutôt jeune public. Ça lorgne quand même pas mal du côté de Pokémon, mais oui, dans les grandes lignes, voilà, on a des jeunes enfants qui ont un espèce de compagnon animal fantastique qui est l'incarnation d'un souhait. Et on suit le héros qui, lui, n'a pas cet imago, c'est pas le sien, c'est un imago, alors je crois que c'est un imago primordial, et ils vont être en quête de bracelets qui appartiennent aussi à quelqu'un de légendaire. Donc c'est toujours très cool, c'est toujours assez bien dessiné, c'est vraiment sympa à lire, c'est un bon complément à la série. Si vous connaissez pas la série, c'est pas grave, c'est une aventure en standalone, il y a des refs à la série, donc c'est quand même mieux de connaître les deux univers. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Moi, je connaissais pas la série. J'ai commencé par le manga. J'ai commencé à découvrir la série avec mon fils. Et carton plein, que ce soit la série ou le manga papier, c'est quand même un peu compliqué de lui enlever des mains ou simplement de l'obliger à arrêter. Donc,
c'est que c'est gagné quand c'est comme ça. Quand les enfants restent dessus.
C'est des bons moments. Et puis l'histoire est vraiment cool. Donc les chara-design des persos sont sympas. Tout marche bien, donc bon.
Et en plus, c'est fini en deux tomes.
C'est fini en deux tomes, c'est vrai. Je crois que c'était trois, j'ai bugué.
Série complète en deux tomes.
Et ben voilà, donc voilà, petite série courte en complément. Si vous avez vos enfants qui aiment la série, bah, n'hésitez pas. Si vous voulez découvrir, bah, ça va pas vous coûter un bras et clairement, c'est plutôt sympa à lire. Donc, l'avis d'expert de Fabien sur le dessin ou
Oh bah d'expert. Ouh là là, attention. La pression. Non bah on est vraiment on ressent ouais comme tu disais du Pokémon, vraiment on est sur ce le style de on voit bien avec les personnages. Le style est très rond au niveau dessin.
Ouais.
C'est très simple, c'est assez simple mais c'est bien fait et puis ça a l'air très dynamique. On est vraiment sur la tranche d'âge 8 ans quoi, 8 plus quoi on va dire.
Complètement.
Et ce qui a l'air ce qui fonctionne bien de l'aventure je pense beaucoup de gentillesse dans les combats,
des bons sentiments,
des
de l'amitié,
bons sentiments de tout ça, la force de l'amitié. Voilà, ouais. on sent rien qu'en tournant les pages qu'on est dans ce genre d'aventure là.
Avec des combinaisons de pouvoirs,
ouais, plein de choses. C'est toujours hyper cool ça.
Ça marche très très bien. Je te laisse redonner les refs s'il te plaît.
Alors c'est Imago, les bracelets d'Isbanir. Au dessin on a Galang Tirtakusuma. Et au scénario, Mariam Hashmi et Sylvain Dos Santos, aux éditions Nobinobi.
Parfait. Et toujours chez Nobinobi, on a la suite du manga officiel Minecraft. Je suis en train de regarder sur le nombre de tomes. Je ne l'ai pas sur celui-là, donc c'est que ce n'est pas fini. Le manga officiel, du coup, d'après le jeu vidéo Minecraft, de Kazuyoshi Seto. Pour rappel, en fait, on suit un jeune garçon qui, dans l'univers de Minecraft, bénéficie d'un mode, à savoir, il est capable de créer des choses dans Minecraft sans table de craft, chose qui est plutôt pas normale, et il est capable de s'affranchir de certaines règles de craft, ce qui est plutôt cool. Je connaissais pas vraiment l'univers Minecraft à part ce que mes enfants avaient pu m'en dire avant de lire ce tome-là. J'avais vu le film. Mais c'est plutôt cool. Il y a plein d'anomalies. Alors là, techniquement, je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de le lire en connaissant le jeu vidéo et son univers, puisqu'il y a plein de contre-pieds qui sont faits à l'univers. Par exemple, on a un zombie qui parle et qui est gentil. Il y a plein de petits éléments comme ça, en fait, qui sont des éléments qu'on va pas retrouver dans le jeu vidéo et qui permettent de sortir un petit peu des cases et de rigoler. Donc, voilà. Graphiquement, globalement, c'est très cubique.
Logique.
Parce
hein.
que, voilà. Même si ma fille me confirme que certains éléments de dessin, notamment la mèche du héros, ne peut pas exister du tout dans le jeu vidéo. Donc, ça marche. Il y a plein de petits trucs qui marchent bien. Donc, on passe un très bon moment. C'est pareil, c'est alors plus que sur Imago, il y a plein de vannes en fait, mais des vannes pour la vanne parce que on peut la faire, donc on la fait. Et ces vannes-là sont souvent des clins d'œil aux joueurs du jeu. Donc voilà.
Oui, donc c'est vraiment pour des personnes qui connaissent.
Ouais.
En gros, je m'exclus de cette lecture pour l'instant en tout cas.
En fait, on passe pas un mauvais moment.
Non, non,
si on le
bien.
On le lit, on va découvrir des choses et on nous rappelle bien les différentes règles du jeu au fur et à mesure.
Mais tu dois louper plein de refs parce que bon,
ouais.
C'est bien écrit le manga officiel Minecraft, donc il doit vraiment y avoir pas mal de refs et je pense que tu l'apprécies plus quand tu connais. Moi personnellement, je sais que mes enfants y ont joué et y jouent un peu, mais moi j'ai jamais trop capté ce que c'était de crafter, de me casser des cubes et puis de construire des trucs.
Pareil, manque voilà. de temps.
Hein. Ouais.
Mais quand j'ai lu le manga, je consultais mes encyclopédies sur pattes à la maison.
Oui, bah oui,
et
voilà.
Qui me disaient, ah ouais, mais là, ça c'était trop bien. Et eux, ils ont kiffé. Donc.
Ah bah oui, mais ça m'étonne pas. Hein. Je pense qu'en effet, hein, si tu connais bien l'univers ou même que tu le connais ne serait-ce qu'un peu, ça doit être plutôt cool puisque bah, les dessins sont sympas, même si c'est forcément très cubique, mais ça colle bien sur la façon dont c'est fait. C'est pas choquant du tout.
Non, c'est bien.
Le fait que ce soit cubique comme ça.
Je l'avais mentionné lors de la réception du tome 1 et 2. Il y a une difficulté de perspective quand on dessine des cubes qui est d'autant plus importante lorsqu'on dessine un truc qui n'est fait qu'avec des cubes. Ouais. Donc ça marche bien, c'est propre, c'est efficace. Rien à redire. Je te laisse redonner les refs.
Alors, c'est le manga officiel Minecraft, Voyage au bout du monde, aux éditions Nobinobi de Kazuyoshi Seto.
Perfect. Je continue en jeunesse avec une petite BD toute mignonne de Nadia Berkane et Alexis Nem qui s'appelle Le joli monde de Finette. C'est sous-titré Ne fais pas ton grognon, Barnabé. Et c'est publié aux éditions Oxymore dans la collection Petite Luciole. Alors, déjà, si vous connaissez pas Alexis Nem, C'est que vous êtes passé à côté de beaucoup de productions bande dessinée, oniriques et à destination du jeune public souvent. Et c'est un travail qu'on reconnaît quasiment tout de suite. C'est un travail numérique, ça, y a pas de doute. Mais il y a des cases qui sont cassées, il y a beaucoup de décors, il y a des personnages qui sont très mignons, c'est souvent très rond, et ça marche quasiment tout le temps. À chaque fois que j'en ai lu, ça a marché, j'ai pas vu de raté là-dessus. Et là, on est sur une première BD. Alors, ça c'est mon point de vue. Une première BD, pour moi, c'est une BD sur laquelle on a pas beaucoup de texte, justement pour pas trop fatiguer le lecteur. Là, je trouve que c'est une première BD plus, parce qu'il y a quand même pas mal de texte. Ça nécessite à l'enfant soit d'avoir envie de vraiment s'investir dans la lecture, et il y a largement de quoi faire pour s'investir, mais il y a aussi besoin peut-être d'être un peu fluent justement dans cette lecture, chose qui n'est pas forcément aisée sur les toutes premières lectures.
Je pense, si tu veux mon avis, qu'il faut être peut-être, même si les toutes premières lectures est accompagné là, ouais, pour le coup, parce que en effet, il y a quand même pas mal de textes sur pas mal de pages, et si c'est vraiment les toutes premières, ça peut être un peu, c'est peut-être vrai, un petit peu difficile. Alors tout dépend après de la facilité de lecture de chaque enfant, mais un petit accompagnement peut-être au départ pour voir s'il va pas ça va pas braquer
faut
l'enfant,
pas que ça
peut-être
devienne un frein,
voilà,
ouais,
un frein, l'accompagner un petit peu et voir s'il s'en sort, puis après si ça roule, le laisser lire sa petite BD tranquillement, mais en l'accompagnant peut-être qu'au départ ça peut être sympa. En plus c'est pas très long, donc ça peut même faire office d'histoire du soir.
Ouais.
Tranquillement dans le lit, lire avec lui la petite BD, je pense, lui ou elle, hein, bien sûr. Oui. Et non, je pense que ça peut bien coller. En tout cas, j'aime bien, c'est mignon, les dessins sont chouettes.
L'univers a l'air très, vraiment très cool.
Ouais, c'est mignon, ça donne envie de lire et de partager la lecture en fait. Je trouve.
Pour l'histoire, c'est l'histoire d'une petite fille qui est affublée d'une espèce de costume de lapin. Avec des espèces d'oreilles rouges, et elle a pour animal de compagnie un petit lapin qui parle. Et dans son environnement arrive un ours, un nouveau voisin, mais qui est grognon. Il parle pas, on sonne à sa porte, il répond pas, il y a plein de choses qui vont pas. Et en fait, cette petite fille va tout faire pour essayer de dérider cet ours et de comprendre pourquoi il est grognon. C'est aussi simple que ça. C'est très mignon. Il y a un petit peu de magie, il y a des éléments un peu fantastiques qui passent bien. Ça passe tout seul. C'est une petite histoire qui est vraiment très fluide, pleine de bonnes intentions, sans tomber dans le côté mièvre du truc. J'allais spoiler un petit peu, mais on va pas changer cet ours-là. On va comprendre ce qu'il est et on va pas le changer. Il restera grognon, mais ça fera partie de son caractère. Et c'est plutôt cool, en fait, d'avoir ça, de se dire, faut accepter aussi les gens tels qu'ils sont, simplement comprendre pourquoi ils sont comme ça. Donc, petite BD à démarrer, vraiment cool, et voilà, ne pas bouder son plaisir, donc voilà.
En tout cas, ça donne envie, en plus la couve, elle est très jolie. J'aime beaucoup l'objet.
Ouais, l'objet, on est sur un format un peu plus... Alors, c'est pas tout à fait un carré, c'est un petit rectangle quand même, mais
ouais, on n'est pas loin. Ouais, en effet, on n'est pas loin du carré. Ouais.
On n'est pas loin du carré. Mm-hmm. Et puis on a un côté, une petite dorure au milieu du titre et tout, et puis la couverture. Mais c'est ce qu'on a dit lors de la dernière émission. En fait, Oxymore fait des couves qui sont vraiment très cool.
Ouais, c'est toujours très joli ouais, ce qu'ils font, je trouve.
Ça tabasse pas. Après, on est resté sur des trucs plutôt à destination des enfants, sur ce qu'on avait dit.
Oui.
Donc à voir. Je crois que j'en ai une de côté, un peu plus adulte là, pour une prochaine émission. Donc
Ah bah oui, histoire de voir un petit peu aussi, ouais, ce que ça peut donner sur des couves peut-être un peu plus sombres ou ce genre de choses qui peuvent être aussi, à mon avis, très sympas.
Ça peut être vraiment cool.
Ouais.
Je te laisse redonner les refs.
Ah oui, alors Le joli monde de Finette ne fait pas ton grognon Barnabé de Nadia Berkan et Alexis Nem aux éditions Oxymore, collection Petite Luciole.
Parfait, parfait. Je te propose qu'on fasse une petite pause musicale, histoire de prendre le temps de se réhydrater un peu.
Ouais, je vais me chercher un verre d'eau.
Ouais. Je fais une petite dédicace à ma fille, si elle m'écoute ce soir. Je vais passer un morceau qu'on a eu la chance d'entendre en live à Paris il y a quelques jours avec ma fille. On était au concert d'Ado. Ado, qui est une artiste japonaise à qui on doit notamment le générique de Spy X Family et d'autres génériques. Donc c'est cool. Donc je vais vous passer le morceau Rockstar, ce qui est plutôt cool. Allez, on se retrouve tout de suite après sur le 101.5 de Radio G. Wow. Parler sans ouvrir les micros, dis donc.
Ah, ça nous est déjà arrivé une fois.
Jamais. On est les plus grands professionnels du monde. Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G, c'est toujours la case de Seb. Voilà. Que dire de plus? Ça va être à ton tour de parler, je crois, c'est ce qu'on s'est dit.
Oui, bah oui, tout à fait, allons-y, avec plaisir.
Allez, non, c'est pas ça.
Radio G.
Pourquoi, toi? Oh là là, mais décidément.
Il fait chaud.
Ouais, c'est ça. On va dire que c'est mes doigts qui ripent à cause du trop de sueur. Bon, allez, d'abord ton générique, Fabien. Kaizoku Oni.
これはなる。
何？お前はもう死んでいる。
Ah là là là. Non, mais on va y arriver. Hein. C'est juste que nos cerveaux sont en train de se liquéfier sur place. Là.
Ah, mais on est un peu plus au ralenti. C'est normal. Il fait chaud.
Alors, de quoi tu vas nous parler ce soir, Fabien?
Eh ben, ce soir, je vais vous parler de Crossolic. Donc, pour ceux qui ne savent pas que ça se prononce comme ça, parce qu'on n'est pas censé forcément le savoir, sur la jaquette, c'est pas écrit Crossolic, c'est 3X et plus loin, Olic. H-O-L-I-C. Oui, ça fait bizarre d'ailleurs, mais bon, voilà, c'est comme ça. Souvent, de façon, quand il y a une croix sur les ou un X, on dit cross souvent au Japon.
Ou des fois, on le prononce pas.
Ou des fois, faut pas le prononcer. Alors, c'est pas toujours simple, mais après, on dit bien ce qu'on veut du moment qu'on se comprend. C'est le principal.
C'est ça. Moi, je dis toujours Enter X Enter. Hein, donc.
Voilà. Alors que normalement, il faudrait a priori dire Enter Enter et non pas dire le X. Mais bon, franchement, il y en a. C'est comme, je sais même pas. Par exemple, Spy Family. Est-ce qu'il faut dire Spy Family, Spy X Family? Je ne saurais même pas dire.
Eh ben, bonne question.
Bah oui. Voilà. Donc bon. Donc du coup, Crossolic. Crossolic. Donc c'est chez Pika Edition. Donc c'est un service presse qu'on a reçu et c'est une réédition. Parce que Crossolic donc est paru au Japon en 2003. Il a eu droit à sa première édition en 2004 et donc qui est d'ailleurs terminé en 19 tomes et qui est réédité cette année en 2025 avec deux tomes qui sont sortis en ce début d'année. Et nous avons au dessin et au scénario Clamp. Donc là, ouais.
Je me verrais juste d'ajouter, en fait, la réédition qui se fait là, c'est parce que Pika réédite une collection qui va s'appeler Clamp Universe, dans laquelle on réédite en fait des grands titres de Clamp. Certains sont encore en cours de publication qui bénéficient pas de cette réédition là, mais voilà, il y a notamment Tokyo Babylon, Crossolic, et il y a d'autres titres qui sont annoncés justement dans cette collection là.
C'est le premier hein, de la collection là hein, pour l'instant.
Avec encore. Tokyo Babylon, ils sont sortis en parallèle, si pas, j'ai bien compris, ouais.
Ok, bah, j'avais pas suivi.
Je vais chercher les infos.
Ouais, ça marche. Bah, j'avais pas vu. Je croyais que c'était le premier de la collection, mais peut-être qu'en effet, je n'ai pas vu ça. Et donc du coup. Avant de rentrer dans Crossolic, juste un tout petit aparté sur Clamp, histoire que les gens sachent un petit peu, parce que souvent on dit bah c'est un mangaka qui est à la réalisation
et
on donne son nom. Mais là non, c'est pas ça en fait. Clamp, c'est un collectif de mangaka féminin qui est très connu dans l'univers du manga et qui a été fondé en 1987 en fait par 12 jeunes femmes. Et en fait,
c'est un girls band.
Ouais, c'est un girls band exactement. Et en fait, c'est elles en fait qui ont fait de nombreux titres pardon très connus tels que bah 414 Sakura qui est quand même un titre très très connu. On a Chobits aussi qui a été pas mal fonctionné. On a Tsubasa Reservoir Chronicles, t'as parlé de Babylon juste avant, et il y en a plein d'autres. Donc au départ
très prolifique,
ouais, c'est ça. Et là, au départ elles étaient 12, mais ça s'est réduit après dans les années 90 a priori à 4 qui maintenant
sont le socle
en fait de leurs titres. Par contre, petite chose qu'on c'est très rarement, c'est qu'on ne sait pas si elles travaillent toutes à chaque fois sur le titre ou si seulement certaines y travaillent. On ne sait jamais trop en fait lesquelles. Ouais, il y a un peu de mystère derrière qui fait quoi exactement et tout. On ne sait pas trop. Et donc, bah, c'est ce collectif-là qui est à l'origine de toutes ces œuvres.
Alors, j'ai été chercher les infos parce que du coup, effectivement, on les avait eues. Il y a 3 titres qui rejoignent la collection Clamp Universe cette année. Effectivement, c'est Crossolic qui commence depuis le 19 mars. On a Tokyo Babylon qui sort en juillet et Clamp School Detective qui sort en octobre. Il y aura des nouvelles séries et ne sont pas concernés Cardcaptor Sakura, la version Clear Card Arc, les Chobits, Kobato, Magic Knight Reheart et Trèfle qui pour l'instant restent dans leur édition actuelle.
Ok, par contre ils n'ont pas annoncé par exemple de Tsubasa Reservoir Chronicles.
Non, et c'est dommage parce que il y a un lien.
Oui,
je pense que tu en parles un petit peu dans ta chronique.
Oui, très vite fait, ça, je le dis un petit peu à la fin, très rapidement, parce que il est pas nécessaire de l'avoir lu ou quoi que ce soit, c'est juste une petite ref qui peut se lier, mais ça empêche pas d'apprécier la lecture.
Je te rends la parole.
Ouais, avec plaisir. N'hésite pas surtout à intervenir, parce que je sais que tu as la première édition. Que tu
oui, j'en parlerai bien. Certainement. On fera pas forcément le jeu des 7 différences, mais il y a certainement des choses à en dire quand même.
Ouais, ça marche. Donc du coup, Crossolic, on va dire quand même de quoi ça parle. Un petit peu. Donc on a un lycéen, Kimihiro Watanuki, qui est poussé malgré lui par une force étrange, mystérieuse, qu'il fait entrer dans la maison d'une médium, Yuko Ichihara, qui attendait cette visite inéluctable. Face à ces déclarations, Kimiro reste perplexe et afin de parer à son scepticisme, la médium lui révèle des détails concernant son passé, notamment un lourd secret lié aux forces occultes. Pour se débarrasser des visions qui l'assaillent, car il voit plein de visions autour de lui qui pèsent en plus, qui jouent vraiment sur lui, Kimiro accepte un petit boulot d'homme de ménage chez cette médium plutôt difficile à vivre.
Elle a son petit caractère.
Elle a son petit caractère, en effet. Et donc, là, on est sur une œuvre qui va nous plonger un peu au cœur d'une sorte d'ésotérisme et d'un peu du folklore japonais, hein, parce qu'elle, elle est quand même, elle dépeint. On est quand même dans le monde moderne, de ce qu'on en voit au début, en tout cas, avec ce jeune étudiant. Mais elle reste un peu dans un monde, on dirait, un peu passé du folklore japonais, avec les tenues, la médium, limite un peu sorcière presque, hein, on sait pas trop.
C'est clairement ça. Ouais.
Ça fait vraiment un peu ce côté folklore. Et malgré ce thème qui peut paraître plutôt un peu sombre hein, au premier abord, en fait on a un côté très humoristique qui est vraiment très présent, c'est très léger. Et le côté sombre en fait il est là mais sans vraiment être lourd. On est vraiment, il y a toujours, elle veut toujours essayer de nous faire réfléchir un petit peu au côté maléfique mais au côté bienveillant aussi. Elle est assez mystérieuse cette médium Yuko. Et par contre, elle est en effet un caractère très haut en couleur. Elle aime bien boire un peu aussi, ça régulièrement, en tout cas dans les deux premiers tomes que j'ai lus. C'est quelque chose qui revient assez souvent.
Puis de mémoire, elle a un côté un peu aguicheuse aussi.
Eh ben là, on l'a pas trop vue. Moi, je l'ai pas encore trop vue. Par contre, elle se sert de Kimiro comme dans l'arbin. Hein. Clairement, c'est lui qui va commencer à devoir faire tout le ménage, la bouffe, aller lui chercher son médicament contre le mal de tête parce qu'elle a trop bu la veille. Donc voilà, plein de petites choses comme ça. Donc on a vraiment ce côté léger et cette petite aventure assez sympa qui va nous emmener dans le côté un peu fantôme, ésotérisme, qui a l'air très chouette. On va rencontrer quelques personnages, parce que je n'ai pas trouvé qu'il y en avait beaucoup pour l'instant, mais qui ont l'air très intéressants dans leur développement.
Un petit peu plus après, mais ça reste une série qui fourmille pas, on va dire, de personnages.
Ouais, c'est en tout cas l'impression que ça donne sur ces deux premiers tomes. Mais ça donne envie d'en savoir plus sur ce qui va se passer. Côté dessin, je trouve le dessin d'une grande simplicité. Attention, hein, je dis ça, mais je veux pas dire qu'il est basique et sans intérêt. Simple, ça veut pas dire ça. C'est qu'au contraire, le trait, il est très clair, très précis, super bien maîtrisé. Très peu de nuances de gris, c'est vraiment des traits fins noirs ou du blanc, quasiment pas de décor. Tous les détails sont portés sur les personnages et sur les impressions de mouvement, sur les voluptés. Il y a énormément de voluptés, de fumée, ce que voit Kimiro, les âmes, entre guillemets, c'est très voluptueux. Ouais. Il y a un design, c'est élégant en fait. C'est vraiment très élégant, mais ça fourmille pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout perdu, les cases sont claires. Et du coup, j'ai trouvé ça très très intéressant parce que ça change de certaines œuvres, même de Clamp elle-même. Parce que si je compare par exemple un souvenir d'une vieille lecture que j'ai avec R.G. Veda, où là, on était sur quelque chose c'était des dieux de l'Olympe, ou je sais plus exactement, parce que ça fait très longtemps.
Tout à fait l'Olympe, je crois.
Non. Enfin, voilà, c'était des dieux et donc là, on avait vraiment le côté plus, ça partait un peu plus dans tous les sens avec des traits qui partaient un peu plus et tout ça.
Beaucoup plus de détails partout.
Partout et tout. Contrairement là où c'est vraiment précis et du coup, par contre, ça nous recentre sur les personnages et c'est vraiment ce que j'ai l'impression qu'ils ont envie qu'ils ressortent de cette lecture. Pareil, le découpage, il est d'un grand classique. C'est-à-dire que les cases, elles sont belles, elles sont coupées, elles sont propres, c'est net, ça déborde pas. Alors on peut trouver ça peut-être trop classique, mais en fait ça colle vraiment, je trouve, avec l'ambiance que ça veut donner avec ce petit côté folklore japonais. Et à côté de ça, on a quand même des petits moments de débordement d'humour sur certains dessins et tout qui sont punchy, avec des petits personnages qui sont là dans la maison. Je vais vous en dire plus, qu'on découvre très rapidement, qui sont un peu faux-folles. Voilà, c'est vraiment rafraîchissant comme lecture. J'ai envie de voir où ça va nous mener. Et en plus de ça, pour ceux qui aiment bien Clamp, bon, déjà je pense qu'ils connaissent Crossolic, j'imagine. J'espère. Des petites références quand même assez prononcées à Tsubasa Reservoir Chronicle qu'on va retrouver dès la fin du premier tome. Peut-être encore par la suite, je sais pas.
Oui.
Mais en tout cas, si, dans le tome 2 aussi, de toute façon. Après, ceux qui n'ont pas lu Tsubasa Reservoir Chronicle, c'est pas du tout un frein parce que finalement, c'est des personnages comme ça pourrait être qu'on ne connaît pas, ça serait pas grave en fait. Il y a pas de souci là-dessus. En tout cas, moi, j'ai pas ressenti que ça pouvait être un frein.
sais pas ce que t'en penses toi.
Mais... effectivement, c'est pas un frein, c'est plutôt des clins d'œil. Les deux séries sont sorties en parallèle. Il y a, tu disais 25 ans, c'est ça maintenant?
Oui, c'est ça. Là, c'était en 2003. Like.
Ah oui.
Ouais, donc 22 ans.
Et en fait, pour moi, il y avait deux séries. Alors, sans préjuger aucun, il y avait Tsubasa Reservoir Chronicles, qui était plus orienté action, que je trouvais peut-être un peu plus populaire. Et on avait Crossolic, qui était un peu plus élite, parce que plus posé, moins d'action, un dessin qui était peut-être un peu plus précis, un peu plus exigeant, justement, alors que Tsubasa est plus détaillé. Et en fait, on a les deux séries qui se font des coucous de temps en temps. Mais c'était deux séries qui étaient là pour relancer aussi à un moment clé. Je pense qu'elle a été créée déjà à la base pour un anniversaire de Clamp, ces deux séries-là. Donc le but, c'était de se faire des clins d'œil et de s'auto-référencer partout.
Ouais, bah du coup, en effet, on a ces petites refs. Mais on est, voilà, après, qu'on les ait ou qu'on les ait pas, ça nuit pas du tout
pas
à l'histoire. C'est pas grave du tout. Après, moi, je vais parler un petit peu plus rapidement de l'édition.
Ouais.
Parce que du coup, on est sur une réédition. J'ai pas eu l'occasion de lire la première édition. J'ai vu un petit peu les couves de la première. Et j'avoue que personnellement, je trouve les couves de la première édition plus attrayantes que celle-ci. Mais ce qui est très intéressant dans cette nouvelle édition, c'est que sur chaque première page, quand on ouvre, on a en couleur, la page de la couve de cette première édition qu'on peut admirer d'une manière différente. Après, sur cette édition-là, ils ont fait quelque chose en fait de plus simple et de plus sobre que sur la première édition. Après, les personnages dessus sont très jolis, mais c'est cette couleur un peu qui est sur toute la couve qui moi me fait un petit peu bizarre. Mais ouais.
J'avoue que la nostalgie, pour moi, elle tape très fort parce que c'était de très très beaux objets, l'ancienne édition. Effectivement, la page qui est à l'intérieur full couleur, elle recouvrait toute la partie, toute la jaquette. Et il y avait une espèce de petit cadre, en fait, qui délimitait un petit peu. Par contre, l'intérêt, là, de la voir, c'est qu'on l'a dans son intégralité. Alors que sur la jaquette, elle était un petit peu cassée, notamment par le dos, où on avait le titre et tous ces éléments-là. Par contre, ceux qui ont eu cette édition-là, la première édition, elle avait une particularité qui était vraiment très sympa et qui donnait cet aspect très collection et très... je reprends le terme élite, en fait, de cet ouvrage-là, c'est que toutes les tranches des ouvrages étaient colorées et d'une couleur différente pour chaque tome.
Ouais, ça devait être sympa.
Donc, peut-être que c'est même les couleurs qui sont utilisées sur les jaquettes. À revérifier. Ce serait un clin d'œil très très cool. Mais j'avoue que moi celle-ci, en fait, la nostalgie parle beaucoup puisque la jaquette en plus a un côté sur cette nouvelle édition un côté un peu plastifié qui moi me plaît moins. Mais voilà, c'est le côté nostalgie. Par contre, c'est ce qu'on regardait tout à l'heure. On y gagne en clarté. L'ancienne édition avait un côté un peu jauni qu'on trouvait sur beaucoup de mangas qu'on ne retrouve pas sur celui-là. Donc on y gagne en clarté en lecture. Donc voilà.
Oui, c'est vrai qu'à cette époque-là, il y a un peu plus de 20 ans, souvent on avait du papier qui était un peu plus jaune que maintenant.
Ouais.
Et du coup, en effet, je pense que là, vu qu'on a que du noir et pas de niveau de gris et beaucoup de blanc, je pense que ça doit amener en clarté sur cette nouvelle édition-là. Mais en tout cas, voilà, l'édition est belle quand même, c'est très agréable à lire. Et j'ai apprécié ma lecture de ces deux premiers tomes, parce que moi, je ne connaissais pas Crossolic, pour le coup.
Eh ben, j'en suis ravi, parce qu'effectivement, ça reste une série qui est emblématique du studio, et d'une période du studio, parce qu'effectivement, ce qu'on se disait tout à l'heure, voilà, ça a beaucoup bougé. Donc, tu passes de 12 à 4, voilà.
Bah oui, et puis, quand même, ils ont fondé en 87, donc le collectif, donc ça fait bientôt 30 ans, bientôt 40.
Ouais, ils sont plutôt jeunes, les dames.
Donc, non, c'est plutôt chouette. Peut-être que d'ailleurs, dans 2 ans, on aura le droit à quelque chose de particulier.
Ça peut être.
Ça pourrait être cool.
Je suis en train de chercher les tranches depuis tout à l'heure, mais j'ai ma bibliothèque pour ça, mais
Ah, mais elle est pas là.
Non, je ne me trimballe pas, puis heureusement, parce que je vous explique pas le hasard. Bref, voilà. Si vous avez l'occasion, c'est vraiment une série à découvrir, donc n'hésitez pas. Voilà, je les ai les tranches là. Eh ben non, ça matche pas puisque la première tranche elle est un peu noire et la deuxième elle est un peu rouge. Donc là on a un violet, un joli violet, hein,
un joli violet
et un bleu. Parme, ça marche parme ou pas?
Ouais, je sais pas.
Je vais dire
taupe. Moi je dirais bleu, mais
mais c'est un, j'essaye de me la péter un peu.
Non mais bon. C'est que moi je suis nul avec les différents nuances de couleurs, alors bleu.
Bleu c'est pas mal. Ok.
Donc,
je te laisse redonner la ref.
Allons-y. Donc, c'est Crossolic aux éditions Pika Édition dans la collection Clamp Universe et du coup de Clamp.
Un bec.
Et prévu aussi en 19 tomes, puisque ça respecte
la pagination. Il garde la pagination originale.
Ouais, exactement.
Donc, c'est aussi l'occasion. Alors, je le mentionne parce que en manga, quand vous commencez des collections et que parfois vous avez du mal à suivre ou vous loupez un tome, les derniers tomes de la collection Crossolic coûtent un petit peu cher. Comme les derniers tomes de Tsubasa. Tsubasa avait bénéficié d'une réédition il y a de ça quelques années, ouais, en tome double.
L'intégrale coûte très cher de Tsubasa. Ouais,
ça pique un petit peu, donc c'est l'occasion de les découvrir à des tarifs qui redescendent. Voilà. Si vous aimez l'ancienne version, parce qu'elle est cool, bah, prenez l'ancienne version, mais il faut imaginer que vous allez avoir besoin de lâcher un petit billet quand même.
C'est ça, tout à fait.
Donc voilà. Cool. Moi, je vais partir en mode...
Noni. Ok, j'attends la chute de la blague.
Non, il n'y a pas de chute.
What? What the fuck?
Et oui, en mode what the fuck avec un tome toujours chez Pika Édition, toujours un service de presse. Mais je ne pouvais pas passer à côté. C'est tout récent, c'est sorti le 18 juin. C'est compliqué à dire, 18 juin. Je sais pas, faut pour rien faire ce jour-là. Ça s'appelle Superman Gourmet of Steel. C'est de Satoshi Niyagawa et un dessin de Kai Kitagou. Je le passe à Fabien qui va découvrir. Comment expliquer? Donc, tout est dans le titre, hein. C'est Superman qui est un gourmet. Mais Superman, il n'est pas juste un gourmet. En fait, Superman, c'est Clark Kent. Clark Kent, lorsqu'il bosse en tant que journaliste, il a une pause repas qui dure à peu près une heure, voire un petit peu plus. Et un jour, en fait, il a eu l'occasion, lors d'un combat au Japon, de découvrir des yakitori. Et en fait, il a kiffé. Donc, qu'est-ce qu'il fait Clark Kent quand c'est l'heure de sa pause repas? Hop, il ouvre sa combi, il dévoile son logo S et il part direct au Japon, parce qu'il peut le faire, ça lui prend très peu de temps, et il va manger des spécialités japonaises au plus près, et il s'extasie devant la bouffe japonaise à chaque fois. C'est absurde en fait, c'est comme si vous aviez Jean-Pierre Coff qui était capable d'aller vous emmener et faire découvrir n'importe quoi, n'importe quelle spécialité culinaire directement dans son pays, et de vous commenter tout ça. Et c'est juste trop drôle en fait, parce que les repas ou l'alimentation de Superman, c'est sans doute le truc qui est le moins abordé dans les comics. Ça tombe bien, c'est pas un comics, c'est un manga. Mais c'est complètement barré. Alors, si vous aimez pas Superman, le lisez pas, parce que c'est vraiment lui le personnage central. Si vous aimez pas la bouffe japonaise, ça va être compliqué aussi. Et si ça vous aime pas, allez-y, ça va être très drôle. Et en plus, alors, ça parle de plein de nourriture que je ne connaissais pas forcément. Ce qui est vraiment sympa à lire. Et ce qui est cool, c'est que Superman se paye aussi le luxe de vanner ses collègues de la Justice League. Je vous spoil pas, mais à un moment, Bruce Wayne propose à Superman de manger ensemble. Donc, enfin, Batman et Superman commencent à manger ensemble. Et comme Batman sait, parce que Batman est le plus grand détective du monde, que Superman adore la bouffe asiatique, eh ben, ils sont à Arkham, enfin pas Arkham, à Gotham City, et il a fait venir le meilleur restaurant de nourriture asiatique de Gotham City. Mais Superman, il dit, ouais, mais moi j'ai mieux, viens, je t'emmène. Et il embarque Superman sur son dos, enfin, Superman embarque Batman sur son dos pour aller manger dans un resto japonais. Mais sur place. Avec une petite chute qui est, ma foi, hyper drôle. Niveau dessin, c'est pas fifou. Enfin, c'est sympa, c'est agréable. C'est pas le meilleur dessin du monde, mais c'est pas ce qu'on lui demande, puisque c'est plutôt potache, histoire de se marrer. Et c'est vraiment cool, quoi. Et bah, on passe pas un mauvais moment. Voilà. Est-ce que t'as un avis à donner dessus?
Bon, ça a l'air en effet un peu déjanté, hein. Ouais, faut prendre ça comme une petite lecture où on pose un peu le cerveau de côté et puis on va se marrer un peu, histoire de décompresser. Non, ça, c'est vrai que ça a l'air drôle. Il y a pas mal de situations, en effet, avec la Justice League, où on voit pas mal de personnages différents qui sont assez sympas. Ça sort du cadre, on va dire, classique de DC.
Ah bah,
clairement. Oui. Mais c'est quand même estampillé DC, hein. Donc
ah oui,
c'est vraiment, ils ont eu l'aval, forcément, ils ont peu le choix. Quand t'appelles Superman quelque chose, t'as pas le choix.
T'as pas trop le choix.
Mais non, ça a l'air plutôt drôle, ouais. C'est vrai. Après niveau dessin, c'est voilà, y a rien d'extraordinaire, mais c'est pas moche. On n'est pas sur quelque chose de moche non plus, hein.
Non, loin de là. Tu reconnais tous les personnages.
Voilà, exactement. Ça, il y a même certaines planches qui sont plutôt sympas. C'est les personnages peut-être. Les visages sont un petit peu moins, ils sont pas trop détaillés, donc c'est ça qui fait aussi.
C'est un peu plus stéréotypé, ouais, je trouve. C'est ça. Mais bon.
Mais en tout cas, ça a l'air fun. Et puis pour ceux qui aiment bien un peu les situations de gags un peu absurdes, je pense que ça doit pas être mal pour ça.
Ça marche pas mal, ouais.
Et en plus, dans le monde de DC, c'est plutôt cool comme ref, quoi.
Et je pense même qu'on peut s'en servir comme guide touristique. C'est-à-dire se dire, tiens, on va aller manger des trucs et se dire, bah, je veux essayer de manger ces trucs-là.
Alors, pour ceux vraiment qui aiment bien la bouffe japonaise, vaut mieux lire Le Gourmet Solitaire, je pense.
Ouais, très
parce
certainement.
Que, clairement, ça, si tu veux connaître vraiment la bouffe et que ça te donne bien envie, si tu ne l'as pas lu, Taniguchi, faut lire Le Gourmet Solitaire.
Il va falloir que je me fasse ça, du coup.
Parce que c'est vraiment hyper cool. Enfin bref.
Ça va rentrer dans mes lectures de l'été.
Ouais, en plus, ouais, l'été, c'est pas mal, ça.
Superman, Gourmet of Steel. Au Japon, c'était Superman versus Menchi. Menchi, qui, selon moi, c'est casse-croûte.
Eh ben peut-être, là je ne saurais pas te dire. Menchi, ouais. Ça me dit rien.
Ce sera en 3 tomes.
Ok.
Donc voilà, pour une grosse série. Après voilà, c'est compliqué certainement de faire des grosses séries sur ce genre de sujet. Quoique.
Ouais, on voilà. Est capable de tout, hein. Mais en effet, je pense que c'est bien que ça soit pas trop long non plus, pour que ça soit pas trop redondant au niveau des gags. À mon avis, tu dois vite avoir fait le tour quand même du sujet.
En fait, la gastronomie japonaise est plutôt large. Donc,
par contre, il y a beaucoup de choses, ça c'est sûr. Mais bon. Pour les gags avec DC, réussir à faire que ça rentre dans l'univers, entre guillemets, ça doit pas être simple non plus au bout d'un moment.
J'avoue qu'il y a quelques gags qui m'ont laissé un petit peu en mode et surtout vers la fin, mais voilà, on en parlera en off parce que ça vous spoil et le but c'est que vous puissiez vous marrer là-dessus.
Ok.
Te laisse redonner les refs.
Ouais, donc c'est Superman, Gourmet of Steel,
aux
éditions Pika Edition. Au scénario Satoshi Miyagawa et au dessin Kai Kitagou.
Impeccable.
Série en 3 tomes, comme tu l'as dit.
Ouais.
Tout à l'heure.
Le but, c'est d'avoir, c'est une petite série vraiment très cool, pas prise de tête. Hop. Ce que je vous propose, c'est de refaire une petite pause musicale. J'ai changé depuis tout à l'heure.
Alors là,
j'ai vu une série de dingue. On n'en parlera pas beaucoup en détail parce que c'est pas adapté d'une BD ni rien, mais ça s'appelle K-pop Demon Hunters sur Netflix. Allez-y, c'est des chanteuses de K-pop qui luttent contre des démons. Faut faire de mieux. C'est vraiment très très quali. Et je vous mets une des chansons en VF qui s'appelle Libre, qui est vraiment cool. Donc voilà. À tout de suite sur le 100.5 de Radio G.
J'ai beau mentir, mais sur ma peau, je lis le pire de tous mes fardeaux. Ma prise et sonne faux. J'essaie de rire, je me noie dans le chaos, mais avec toi je suis enfin mieux. Je devrais te fuir, mais je ferme les yeux. J'ai tant voulu changer, ensemble on peut changer, mais sans toi je n'y arriverai pas. Le monde est meilleur depuis que je t'ai trouvé. Je sens que mon cœur est en paix à tes côtés. Si on affrontait ce qui nous retient, si on avançait ma main dans ta main. Tu as des secrets, mais j'en ai autant que toi. Si on essayait de mener un autre combat, si on affrontait ce qui nous retient, si on laissait derrière notre chagrin, on serait libre, libre. Si on affrontait ce qui nous retient, si on laissait derrière notre chagrin.
Oh, le temps passe et je ne sais plus pourquoi j'ai voulu me battre. Tout a changé en moi. Tu as détruit toutes les barrières qui me protégeaient de mes sentiments. Tu as réveillé celui que j'étais qui se cachait depuis longtemps. Quelque part entre le monstre et l'imposteur, j'ai perdu mon chemin. Je me noie, je m'entête dans une direction qui n'a pas de fin. Tout est plus simple auprès de toi, tu es la seule qui me voit. Je veux y croire mais j'ai si peur, si c'était une erreur. Le monde est meilleur depuis que je t'ai trouvé. Je sens que mon cœur est en paix à tes côtés. Si on affrontait ce qui nous retient, si on avançait ma main dans ta main, on serait libre, libre. Si on affrontait ce qui nous retient, si on laissait derrière notre chagrin. Oh, oh, oh.
Sur nos peaux se lisent les pigres de nos fardeaux.
Si on affrontait ce qui nous retient, si on laissait.
Voilà, on est de retour sur le 101.5 de Radio G. J'espère que vous nous entendez toujours. Il y a des petits bruits un peu bizarres. Voilà, voilà. Désolé, c'est des problèmes, des fois techniques, la technique, de toute façon, c'est compliqué. Voilà. On fait ça à la louche, hein, la case de Seb, c'est pas mal comme ça.
Mais oui, c'est très bien, ouais. On fait comme on peut.
On fait comme on peut avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a, et souvent on n'a pas grand chose. Bref. Mon flamme, moi. Là, les albums qui viennent, c'est des albums dont j'ai déjà parlé sur ma page Instagram. J'ai fait des petites chroniques sur les pour la fête de la musique. Donc là, vous allez avoir. On va essayer de faire les trois pour vraiment. C'était les thématiques sur la fête de la musique. Le premier qui a été mon petit chouchou, ça s'appelle She Wasn't a Guy, c'est de Sumiko Arai, c'est publié chez Mangetsu. Je te les passe, Fabien. Comment expliquer ça? On a une jeune fille très populaire, alors j'ai plus le terme, c'est une gyor, bon bref, qui est très populaire dans sa classe, assez maquillée, extravagante un petit peu, qui vit sa vie très bien. Et en fait, elle va tomber amoureuse du disquaire trop dark chez qui elle va, parce qu'elle a des goûts musicaux qui ne sont pas en fait les goûts musicaux classiques de ce genre de fille-là. Elle aime bien le hard rock, elle aime bien le rock, elle aime bien ces trucs-là. Et elle découvre en fait ce disquaire qui est plutôt dark, qui porte un petit masque cache-bouche, comme nous on a connu dans le Covid, mais qu'on retrouve quand même pas mal au Japon et qui sert souvent en fait pour les personnes timides à se créer une espèce de petite barrière. Malheureusement, elle va se rendre compte, pas si vite que ça, que ce n'est pas un jeune garçon, mais c'est une de ses camarades de classe qui est plutôt timide et qui lui tape quand même dans l'œil. Donc, elle va. C'est du questionnement sur ses propres sentiments amoureux sur fond de musique rock. C'est très cool. Les dessins sont vraiment sympas. Un truc qui, moi, me fait matcher à fond, c'est que les couves sont dans un vert un peu fluo et on retrouve cette tonalité vert fluo tout au long des pages, ce qui donne la lecture un sens très agréable. Il y a un côté frais en fait qui se dégage de ça et ça marche très très bien.
Oui, je suis d'accord. Tous les fonds en fait.
Ouais.
Tous les fonds sont avec cette teinte verte. Pas les personnages du coup, donc ça fait ressortir encore plus. Et non, ça matche bien. Alors, par contre, le pitch, tout à fait ça, hein, mais j'ai envie de dire, en lisant, dès qu'on voit le disquaire, on sait tout de suite que c'est pas un disquaire, mais une disquaire. Ça se voit direct, en fait.
Ouais.
Visuellement, La, première photo qu'on a, on se dit, comment elle peut penser que c'est un disquaire, en fait?
Elle va se poser plein de questions. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a d'autres personnages qui, comme nous, vont dire, c'était quand même évident.
Oui, voilà.
Et c'est, ça marche juste trop, trop bien.
Et puis, je suis d'accord, les dessins sont vraiment très jolis. Hein.
C'est très joli.
Les personnages, les visages sont magnifiques.
On se posait la question du shoujo Yuri. Alors, pour la différence, shoujo, c'est la romance homme-femme.
Pour les jeunes ados. Ouais, c'est ça en général.
Et Yuri, c'est souvent en fait une romance femme-femme est un peu plus adulte. Je dirais qu'on se situe peut-être entre les deux, en fait, parce qu'on est vraiment sur les premiers émois homosexuels, mais pas
assumé encore.
Ouais, c'est pas encore assumé, donc ça marche bien. C'est vraiment très très cool à lire. Et honnêtement, c'est pas mon genre de lecture habituelle. J'ai tendance à m'ennuyer un petit peu sur les romances, mais là, il y a ce fond rock qui marche très bien, qui est vraiment très cool.
Je trouve qu'on est quand même pas dans le shoujo classique entre guillemets en termes de dessin. Je parle parce que je l'ai pas lu, mais le dessin ne fait pas shoujo comme on peut déjà avoir vraiment les paillettes un peu partout. Alors pas tous les shoujo, attention, c'est un peu la caricature du shoujo ce que je suis en train de dire. Mais là, on n'est pas dans ça du tout. Moi, je serais assez intéressé de. D'ailleurs, je l'avais vu passer. Je serais assez intéressé de le lire parce que je ne lis pas beaucoup de shoujo. J'en ai lu quelques-uns. Et sur lesquels je suis allé, c'est sur des shoujo qui sont peut-être plutôt un peu plus matures. Trop classiques, parce que j'ai essayé une fois et c'est trop adolescent. Pour moi, il y a certains shoujo où vraiment le shoujo, c'est un peu trop adolescent, lycéen, avec petites histoires d'amour entre eux où ça m'intéresse pas. Mais après, voilà, c'est qu'il en faut pour tout le monde. C'est comme il y a certains shonen qui ne peuvent ne pas plaire parce que c'est quand même pour les jeunes.
Ouais.
Et donc là, le shoujo, la romance juste classique entre adolescents me passe un petit peu au-dessus par moment. Mais, quand on part sur je sais que j'aime bien certains josei, où là vraiment on est sur
truc plus adulte.
Plus adulte. Et là j'ai l'impression qu'on est un peu entre les deux. Et pour le coup, ça me tenterait bien de te les piquer pour les tester.
Et ça se négocie.
Ouais, on va se négocier ça après.
Je rajoute un petit truc, c'est que toutes les références rock sont des références à des groupes connus ce qui a créé en fait des fan clubs qui se sont amusés à faire des listes Spotify dédiées à la série. Donc vous pouvez écouter ce que les héroïnes écoutent, ce qui est vraiment très très cool. Et ça met une petite mise en abîme vraiment sympa.
C'est cool ça, c'est une bonne idée d'avoir fait ça.
Bah ouais, je trouve.
Ok. En tout cas, ça me donne envie.
vraiment, clairement, toutes les personnes qui l'ont lu m'ont dit que c'était vraiment très très bien. Moi, je l'ai lu, je valide, je trouve ça très très bien. Donc voilà.
Parfait, parfait.
Je te laisse redonner les refs. Ouais. Hein.
C'est She Wasn't a Guy de Sumiko Arai aux éditions Mangetsu.
Parfait. Je vais finir avec un manga publié aux éditions Alpha. Ça s'appelle Sounds of Vinyl et c'est présenté par Ryoichiro Kezuka. Et c'est une anthologie, c'est une série de courtes histoires avec toujours pour thématique le disque vinyle. Donc on reste toujours dans de la musique. Et on a plein d'histoires différentes. La première, c'est une disquaire qui vient acheter une collection de vinyles chez quelqu'un dont le grand-père ou le père est décédé et qui va, en interrogeant l'héroïne sur certains vinyles, va l'amener à se remémorer des choses. On a une histoire sur une boutique qui fait de la contrebande de vinyle dans un pays totalitaire. On a aussi une radio pirate qui diffuse des vinyles. Quand je dis radio pirate, c'est une vraie radio pirate. Ils sont sur un bateau et ils émettent en eau internationale pour pas se faire gauler. et en fait, il y a plein de petites histoires qui sont vraiment très cool, avec non seulement la thématique du vinyle, mais aussi plusieurs éléments interconnectés qui se font écho. Il y a un groupe de rock, la radio pirate qui transparaît sur plusieurs histoires, et ça donne un truc vraiment très cool, très collégial, avec des thématiques vraiment sympas sur un support qui reprend une place en fait dans nos vies, parce que je pense qu'on n'a jamais eu autant de vinyles en circulation depuis allez, le milieu des années 80, voire un peu avant. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment très très agréable, cette ode à ce support qui a un cachet et un grain vraiment très très cool. Donc, et ça marche. Et je me suis pas penché, alors je vais parler un petit peu du graphisme, mais tu valideras, mais je pense que c'est une série qui n'est pas si vieille que ça, mais qui garde pourtant un trait assez old school.
Exactement, c'est ce que je me disais, la première chose que je suis allé voir, j'ai foncé à la fin, et je suis allé voir de quand ça a été daté au Japon, donc 2022, donc en effet, ouais, c'est assez récent. Mais on est sur un style old school, un peu gratté à l'ancienne. Et c'est la première chose que je suis allé voir, du coup, quand
et ça marche
ouvert.
Super bien.
Bah ouais, ça a l'air de coller, à l'ambiance globale en fait avec le vinyle qui est quand même
vintage,
voilà, exactement. Mais non, puis c'est bien gratté, hein, c'est ça. Dans le style old school.
Ouais.
Voilà.
Les histoires sont cool, elles vous plairont certainement pas toutes parce que voilà, il y a des choses qui vont plus vous parler que d'autres, mais c'est facile à picorer. On joue pas trop sur le pathos, même si y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'éléments qui passent en fait à travers ça. Et ouais, mettez-le dans votre bibliothèque, lisez-en une de temps en temps. Ça vous tiendra pas 50 ans, hein, parce qu'il y a que 6 histoires, mais c'est vraiment très agréable à lire. C'était vraiment très très cool à découvrir.
Ils ont pas annoncé combien de tomes y aurait ?
Non, puis j'avoue que je me suis pas renseigné, non. Donc je ne peux pas te dire. Mais clairement, c'est un beau bijou parce que en plus c'est assez épais, donc il y a moyen de se faire plaisir.
Et puis bien sûr, ils mettent pas que c'est le tome 1, mais c'est le volume 1.
Ouais.
Forcément.
Est-ce que j'ai vu ça ? Ouais, j'aurais peut-être pas l'info avant.
Non, bah après, de toute façon, des fois, on n'a même pas forcément l'info, hein, donc c'est pas un problème.
Mais
en tout cas, il y en aura d'autres.
Ouais, clairement une belle découverte parce que il y a 3 tomes au Japon actuellement.
Ok.
Donc possiblement 3 volumes. 3.
Ok.
Voilà. Voilà. Poum. Take. That's all, folks. Et oui, il est 57 degrés, non, il est 19h57 sur le 101.5 de Radio G. Ça va être le moment de se quitter. Alors, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On fait une petite pause estivale. N'hésitez pas à vous repasser les podcasts pour avoir des idées de lecture. La lecture, c'est toujours un petit vent de fraîcheur à l'ombre ou au soleil. C'est vous qui choisissez, mais... c'est toujours le moment de se poser pour profiter. Et je pense qu'il y a moyen de faire des choses sympas. Voilà.
On vous souhaite à tous des bonnes vacances. Surtout, profitez bien.
Ouais.
Pour être en forme à la rentrée.
N'oubliez pas de vous hydrater. Et puis, n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent.
Ah ben, vous avez de la chance, parce que moi, j'ai appris à lire. Ben, je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Kaizoku-oni. Ore wa naru.
Batman. Nous, un petit ch'tou.
Batman. Trompez vite. Venez pas suite-moi ici.
Justement. Les touristes de mort.
Modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? Mais c'est fini. Rentre chez toi. I should have closed my eyes, but it was so bright, so bright, so bright that I forgot. Yeah, it was so bright, so bright, so bright that I forgot about the dark.
Radio G 101.5 FM.